Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Ils appellent à la désobéissance civile non violente depuis plusieurs mois. Extinction Rebellion est né au Royaume-Uni avec l'urgence climatique et ses militants protestent à leur façon contre l'inaction politique, de préférence par des coups médiatiques. La semaine dernière, ils ont lancé 7 jours de contestation en bloquant les ponts et les places les plus animées de la capitale britannique. Leur méthode pour alerter l'opinion, être créatif, comme le die-in il y a 2 jours sous une baleine du Muséum d'Histoire Naturelle de Londres, et puis étendre leur réseau à travers le monde. C'est le reportage de Marie Billon.
I am dressed as an owl, a wise old owl.
Cet homme est déguisé en hibou, en maître hibou, précise-t-il, avec ses lunettes sur le bec, ses plumes sur la tête et ses ailes sur lesquelles on peut lire un message.
Je me bats pour que l'écocide soit considéré comme le 5e crime international, pour que les dirigeants des grandes entreprises qui polluent la terre soient tenus criminellement responsables. Je crois qu'il y a du bon dans le cœur de chacun. Nous voulons tous un monde meilleur.
Drôle de conte de fées que celui de cet hibou vengeur perché sur le pont de Waterloo. C'est ici, sur ce pont d'ordinaire traversé par des dizaines de milliers de voitures chaque jour, que les militants d'Extinction Rebellion se sont installés le 15 avril, l'un des 5 sites occupés dans la capitale britannique. Et pour que le hibou ne se sente pas dépaysé, ils ont emmené des arbres, des arbustes et des plantes, parce qu'il faut plus de verre et moins de voitures.
Est-ce que quelqu'un a besoin d'écouteurs ? Pour ceux qui en ont, il faut montrer à tous les autres de quelle musique il s'agit. C'est assez symbolique.
L'ampli côté sud du pont s'est arrêté de fonctionner tout à coup. Mais qu'à cela ne tienne, un petit groupe de militants de tout âge continue à danser, sans musique ou avec des écouteurs sur les oreilles. L'image est assez étrange. Des gens qui dansent dans le silence, au milieu de la route, sur un pont de Londres avec le Parlement de Westminster d'un côté et la City de l'autre. Certains s'agitent même joyeusement sur les lourdes rambardes en béton installées après les attentats de 2017.
On se connecte à notre corps quand on danse. Et le corps, c'est la terre. Depuis que le monde est monde, on danse, on a le rythme. On oublie ça dans nos vies de tous les jours. Et c'est ça le problème. Dans notre routine, on oublie tout le reste. Alors nous ici, on perturbe ça.
Une dame distribue des biscuits et du gâteau au chocolat. Georgina et son fils la regardent, amusés. Tous deux sont venus du Pays de Galles pour manifester. James n'a que 12 ans, mais il fait partie de ces jeunes prêts à rater les cours pour donner de la voix contre le réchauffement climatique. En ce moment, ce sont les vacances de Pâques, mais il y a quelques jours, sa mère l'a retiré de l'école pour l'emmener récolter des billes de plastique polluant une plage près de chez eux au Pays de Galles.
Je pense que je dois m'impliquer parce que notre planète est en train de mourir et c'est notre avenir qui est en danger.
La meilleure éducation que l'on peut donner à ses enfants, c'est de leur apprendre le monde dans lequel ils vivent. L'école leur apprend plein de choses inutiles, mais ne parle pas des problèmes liés à la consommation d'eau ou la protection de notre planète. Apprendre ça, c'est beaucoup, beaucoup plus important qu'un jour de classe basique à l'école.
Chacun brandissant un drapeau au symbole d'Extinction Rebellion, un sablier dans un rond, James et Georgina continuent à traverser le pont en distribuant des bonjours à ceux dont ils croisent le regard, dont Fran. Cette dame âgée est assise sur le renfoncement qui sépare d'ordinaire les 2 voies de circulation pour manger son pique-nique. Avec plusieurs de ses amis, elle a parcouru 230 km en bus depuis Taunton, dans l'est du pays.
Je n'aurais pas pu regarder mes petits-enfants en face si je n'avais pas fait le déplacement. Je fais des gestes écologiques depuis des années, mais personne ne s'en rend compte. Et l'urgence est telle que seul ce genre d'action peut nous permettre d'y arriver.
Le plus grand point de perturbation dans la ville est à un peu plus d'un kilomètre, le rond-point ultra fréquenté d'Oxford Circus, reliant les rues commerçantes d'Oxford Street à Regent Street. Nous retrouvons Extinction Rebellion le mardi, 2e jour de leur manifestation. Ils ont installé un grand bateau rose en plein milieu, d'où des DJ assurent l'ambiance.
We're here because all this Nous sommes là parce que tout ce shopping, cette consommation, tous ces déplacements partout dans le monde font que nous nous approchons de l'extinction des êtres vivants, y compris l'être humain. Nous n'avons plus que 12 ans pour y remédier. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous voulons que vous nous preniez au sérieux et on va vous y obliger.
Extinction! Extinction! No one's slave, I am no one's master. No one's slave, I am no one's master.
La musique reprend rapidement et on se remet à danser au milieu de la rue. L'ambiance a l'air aussi bon enfant que sur le pont, sauf que de nombreux policiers sont là, dans la foule, un papier à la main, accostant les gens. Les forces de l'ordre expliquent à chacun que dans quelques minutes, elles vont commencer à procéder à des arrestations. Elles engagent les manifestants à se diriger vers un autre site, Marble Arch, à moins d'un kilomètre d'ici, où ils peuvent occuper la pelouse du rond-point. Mais les gens continuent à danser, pendant que Matt, étudiant de 21 ans, sac poubelle à la main, ramasse les mégots et les prospectus par terre.
C'est la preuve que notre but, c'est vraiment de préserver l'environnement. Il y a des choses plus graves que rester dans une cellule pour quelques heures. Et c'est la seule occasion où je trouve qu'il est légitime de faire quelque chose d'illégal. Les policiers sont très sympas et on est désolé de leur donner tout ce boulot, mais ils font juste leur travail.
Les agents commencent à arrêter des manifestants. Certains sont là exprès pour ça, alors ils se laissent faire. D'autres fois, on voit un policier poursuivre calmement en lui lisant ses droits, un manifestant continuant à danser ou à sautiller à travers la foule. À chaque fois que l'un d'entre eux est arrêté, les autres l'acclament et continuent à danser. Tout cela a l'air bien sympathique, mais les Londoniens commençaient à perdre patience quand Extinction Rebellion s'est mis à bloquer les métros.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Résistance également, pourrait-on dire, pour ces Italiens qui n'acceptent pas les déclarations tonitruantes du gouvernement populiste Di Maio Salvini, en cette veille de fête de la libération, anniversaire de la résistance, ou tout simplement 25 avril, l'Italie célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la fin du fascisme et du nazisme. Pourtant, le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, a qualifié ce 25 avril de fête qui divise le pays. Il ne participera pas au défilé de la fête nationale. Un signal préoccupant dans un pays qui n'a toujours pas soldé ses comptes avec le fascisme. Dans ce contexte, certaines villes rappellent avec force ce que doivent être les valeurs de la République italienne. C'est notamment le cas de Parme, en plein cœur de l'Émilie-Romagne, dans le nord-est du pays. Et c'est le reportage de Cécile Debarge.
Voilà, je suis en train de préparer les différents panneaux pour l'exposition.
Assis en tailleur, clous et marteaux éparpillés autour de lui, Armando Ferrari ajuste les cadres des photos en noir et blanc qui seront exposées pour la fête nationale. À 27 ans, il effectue depuis quelques mois son service civique au sein de l'ANPI, l'Association nationale des partisans italiens.
Soulève un peu celui-là. Parce que si je me souviens bien, eh oui... Ici, c'est ma mère et là, c'est ma tante, sa sœur. Elle a été envoyée au camp de concentration de Ravensbrück.
Aldo Montermini est le président de l'ANPI. Cette exposition, c'est l'histoire d'une partie de sa famille, celle de son pays aussi.
Prétendre que le 25 avril est une fête idéologique, comme je l'ai entendu, permettez-moi de dire que c'est une insulte à l'histoire et même aux institutions, car le 25 avril, c'est une fête nationale. C'est comme si on disait en France que le 14 juillet, c'est la fête des anarchistes. Non, mais c'est une blague.
Non.
Chaque année, à cette date, les antifascistes et forces de gauche sont nombreux à défiler à travers le pays. Pourtant, pendant la guerre, le partigiano, le partisan, ne se définissait pas selon un parti, rappelle Aldo Montermini.
Le partisan, c'est avant toute chose celui qui a choisi la liberté. Ensuite, les raisons des uns et des autres pour faire ce choix pouvaient beaucoup varier. Beaucoup de jeunes, par exemple, sont partis rejoindre les partisans dans les montagnes pour échapper aux lois de la République de Mussolini et aux services militaires. Leur choix, c'était ou de s'enrôler ou d'être fusillé.
Un rappel historique nécessaire pour Armando Ferrari, surtout auprès des jeunes générations qu'il guidera à travers l'exposition.
On espère toujours la venue des écoles, car ce genre de projet peut faire réfléchir les jeunes, et pour moi, Il est interdit d'oublier tout ça.
Il est interdit d'oublier. Ce pourrait être le slogan de nombreuses associations, syndicats et tout simplement citoyens italiens qui s'inquiètent face au manque de mémoire et à la tolérance de certains face aux résurgences fascistes. À la mairie de Parme, comme à celle de Brescia, quelques mois plus tôt, a été mise en place une charte de promotion pour la démocratie, rebaptisée par les médias certificat antifasciste. Explication avec le maire de Parme, Federico Pizzarotti.
On a simplement ajouté un document complémentaire que chaque personne qui veut réserver une salle communale doit remplir. C'est une déclaration spontanée dans laquelle on affirme reconnaître les valeurs de la Constitution et de la démocratie, antifasciste et contre toute forme d'autoritarisme.
Le parti néofasciste italien Casapand a déposé un recours devant le tribunal pour contester cette mesure qu'il juge discriminatoire, une accusation que réfute le maire de Parme.
Si tu ne signes pas, ce n'est pas moi qui t'exclus, c'est toi qui t'exclus tout seul, qui te place en dehors d'un cadre qui doit être la base de toute cohabitation civique.
Mais pourquoi alors en 2019 une mairie a-t-elle eu besoin de rappeler les fondements de la démocratie italienne ? Réponse avec Federico Pizzarotti.
On a eu besoin de le faire car il y a une demande croissante de réservation de salles de la part de forces comme Forza Nova, Casa Pound et d'autres groupes qui instillent ensuite un révisionnisme historique et des idées fascistes.
L'initiative est née à la demande de trois syndicats de gauche et de plusieurs associations, parmi lesquelles l'ANPI de Parme que préside Aldo Montermini.
Les institutions sont-elles antifascistes ? Toutes nos institutions sont-elles vraiment antifascistes ? Eh bien, s'il y a 20 ans, on aurait pu répondre sans même y penser, mais oui, bien sûr. Aujourd'hui, on n'est plus tout à fait sûr de pouvoir répondre la même chose sans réfléchir.
Syndicats et associations ont donc rédigé un document de 5 pages rappelant les valeurs de la démocratie italienne, celles de l'après-guerre, mais aussi celles d'aujourd'hui, dont Aldo Montermini relie un passage à voix haute.
Les paroles qu'a prononcées Sandro Bertini, notre très aimé ancien président de la République, étaient les suivantes. Aujourd'hui, la nouvelle résistance consiste à défendre les positions qu'on a acquises, défendre la République et la démocratie.
Une autre ville réfléchit à instaurer cette charte au sein de la mairie. C'est la ville de Reggio Emilia, à 30 km de Parme.
Résistance enfin pour les journalistes. L'ONG Reporters sans frontières vient de publier son bilan annuel sur la liberté de la presse. Et le bilan n'est pas fameux sur le continent européen. À l'exception des pays nordiques, les journalistes européens sont soumis à de nombreuses formes de pression, à un harcèlement judiciaire croissant. On peut noter la garde à vue du journaliste Gaspard Glantz, arrêté lors d'une manifestation de gilets jaunes qu'il couvrait le week-end dernier. La France, 32e dans le classement, loin devant malgré tout l'Albanie, où les journalistes manifestaient récemment pour dénoncer les violences à leur encontre. Leur travail risque d'être encore restreint par un projet de loi, Louis Seyer.
Des microphones enchaînés aux grilles de la procureure générale. C'est avec ce symbole que les journalistes albanais alertent l'opinion publique sur l'état de la liberté de l'information dans leur pays. Selon l'ONG Reporters sans frontières, les médias albanais n'ont jamais été autant attaqués par le gouvernement ou les réseaux criminels qu'en 2018. Et en 2019, la situation semble loin de s'arranger. En quelques semaines, les cas d'intimidation ou de violence sur les journalistes se sont multipliés. Menaces de mort, poursuites judiciaires ou encore insultes publiques, les obstacles sont nombreux dans leur travail quotidien. Lors des manifestations de l'opposition, plusieurs journalistes ont été également victimes du recours massif de la police au gaz lacrymogène et aux canons à eau. La liberté d'information est déjà peu brillante en Albanie où elle est freinée par une forte autocensure. Elle risque d'être encore plus restreinte par un nouveau projet de loi de la majorité socialiste sur les médias en ligne. Le projet vise officiellement à enrayer le développement de la diffamation sur Internet et à mieux encadrer les quelques 650 portails d'information que compte ce pays de moins de 3 millions d'habitants. Selon ce texte, l'autorité de régulation pourrait juger si le contenu de ces médias en ligne est biaisé ou s'il comporte des informations qui portent préjudice à la morale publique ou qui incitent à enfreindre la loi. Les critiques de ce projet estiment qu'il entrave gravement la libre circulation de l'information et restreint le droit des citoyens albanais à accéder à l'information. Dans le dernier classement annuel de Reporters sans frontières, l'Albanie a régressé de 7 places et occupe le 82e rang derrière le Salvador.
Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons.
Près de 800 millions d'euros de dons ont déjà été promis pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. Et l'ampleur de ces dons a très vite soulevé des polémiques en France, comme celle de la reconstruction de la flèche entièrement détruite dans les flammes le 15 avril dernier, ce qui soulève un grand nombre de questions quant à la réhabilitation des joyaux du patrimoine architectural mondial. En Europe, d'autres catastrophes ont frappé des monuments et les réponses ont été diverses. Bonjour Daniel Vigneron.
Bonjour Catherine.
Alors, l'ampleur de l'émotion suscitée par l'incendie de Notre-Dame est-elle sans précédent ?
Oui, si l'on se réfère à un sinistre ponctuel. Cela tient à la renommée planétaire de la capitale française et à la fréquentation touristique de sa cathédrale, qui, avec 14 millions de visiteurs annuels, occupe la quatrième place mondiale derrière le temple Sensoji de Tokyo, 30 millions, et la cité interdite de Pékin, 15 millions de visiteurs. Dans les années récentes, d'autres destructions de monuments ont suscité un émoi international, mais de moindre ampleur. L'incendie du théâtre vénitien de la Fenice en 1996, salle d'opéra qui avait vu la création des grands chefs-d'œuvre de Verdi, ou encore le tremblement de terre qui avait ruiné la ville d'Assise et en particulier sa basilique Saint-François.
Mais d'autres destructions ont eu un grand retentissement également.
En France, dans les années récentes, on peut évoquer l'incendie en 1972 de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes, celui du Parlement de Bretagne en 1994 à Rennes et plus récemment, en 2015, celui de la basilique Saint-Donatien, encore à Nantes. Ailleurs en Europe, il y a en Angleterre l'incendie du château de Windsor en 1992. N'oublions pas la destruction du Parlement de Westminster en 1834. Enfin, le plus grand ravage patrimonial du XXe siècle fut sans conteste la ruine complète de la ville de Varsovie en 1945 et en particulier celle de son vieux quartier reconstruit à l'identique de 1945 à 1960.
Toutes ces ruines ont donc été rebâties, plus ou moins vite, j'imagine.
Oui, il aura fallu 20 ans, voire même 40 ans pour certains monuments, pour le vieux Varsovie, 30 ans pour Westminster, 11 ans de 1994 à 2005 pour Notre-Dame de Dresde, plus de 20 ans pour la cathédrale de Reims. Les travaux sur la cathédrale de Nantes se sont étalés sur près de 40 ans. D'autres restaurations ont été plus rapides, 2 ans pour la basilique Saint-François d'Assise et pour la Fenice, 5 ans pour Windsor. Reste que le délai de 5 ans évoqué par Emmanuel Macron pour Notre-Dame paraît bien court.
Et que penser du débat sur la reconstruction à l'identique ?
La reconstruction des structures en bois n'est pas la plus fréquente. Elle a néanmoins été la solution retenue pour la restauration en cours de Saint-Donatien de Nantes, ainsi que pour la Fenice et Windsor. On a en revanche opté pour une charpente métallique dans le cas du Parlement de Bretagne et pour des poutrelles de béton en ce qui concerne la cathédrale de Reims ou celle de Nantes.
Les coûts évoqués pour Notre-Dame paraissent faramineux.
En effet, certains évoquent une fourchette de 600 millions à 1 milliard d'euros. D'autres vont jusqu'à 2, voire 3 milliards, soit bien au-delà du milliard d'euros de dons déjà engrangés. Cela paraît énorme à l'aune des chantiers récents. 180 millions pour Dresde, 150 millions pour la cathédrale de Nantes, 55 millions pour la Fenice et 45 millions pour Windsor. Mais il est très difficile d'évaluer le coût des énormes chantiers anciens en équivalent actuel. Sans parler du vieux Varsovie, inchiffrable, on parle concernant Reims de l'équivalent de plusieurs centaines de millions d'euros. Et une tentative d'actualisation du coût de l'édification de Westminster dans les années 1870 évoque 3 milliards d'euros. C'est toujours moins que les 4 à 7 milliards d'euros prévus pour la future rénovation complète du Parlement britannique qui pourrait s'étaler sur plus d'une décennie. En attendant, la vétusté de la plomberie et l'obsolescence des circuits électriques provoquent dans l'immense bâtisse néo-gothique inondations, insalubrité et départs de feu à répétition. La catastrophe de Notre-Dame de Paris pourrait enfin déterminer les membres de la Chambre des communes à agir vite.
Daniel Vigneron de MyEurope.info. À bientôt Daniel.
À bientôt Catherine.
Merci d'être fidèle à Accent d'Europe, à la réalisation et à la mise en onde de Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux.